Et merci de nous retrouver pour ce nouveau SMC Talks réalisé par les étudiants du Master de MISC du CELSA en partenariat avec le Social Media Club France. Aujourd'hui, nous parlons d'empowerment. Et pour cela, nous accueillons comme à l'habitude deux invités. L'une issue du monde de la recherche, l'autre issue du monde professionnel. Aujourd'hui, c'est Valérie Peugeot. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors Valérie, vous êtes prospectiviste à Orange Lab. Vous êtes aussi présidente de l'association VECAM, qui propose en fait aux citoyens un décryptage politique et social des transformations liées au numérique.
Exactement.
Voilà. Face à vous, vous avez donc Benoît Thulin. Benoît, bonjour.
Bonjour.
Benoît, vous êtes directeur associé de la NetSquad, donc une agence digitale basée à Paris. Et vous avez été directeur de la campagne numérique de Ségolène Royal, notamment en 2007. Et vous êtes aussi l'instigateur de la Social Media Week.
En France,
exact, puisqu'elle est dans tous les pays du monde. Pas tous, mais presque. Et donc, vous étiez l'instigateur de la Social Media Week en France en 2011, qui avait pour thème justement l'empowerment.
Oui, c'est juste. Oui.
Voilà, ça tombe bien. Donc du coup, première question que je vais vous poser plutôt à Valérie. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition finalement de ce que c'est l'empowerment ?
Alors l'empowerment, c'est un terme qu'on a du mal à traduire en français. En général, on le traduit par pouvoir d'agir ou capacitation, qui ne sont pas très pratiques à manier. C'est pour ça que tout le monde revient sur empowerment. Mais pour essayer de comprendre un peu le terme, on est obligé de faire un petit retour en arrière dans l'histoire. Et une histoire qui commence avant le numérique, puisque c'est plutôt dans les années 40-50 que s'est forgé ce concept, entre autres sous l'impulsion d'un sociologue américain qui s'appelle Saul Alinsky, et qui a travaillé dans les politiques urbaines, dans les quartiers défavorisés avec les pauvres, les populations noires, pour essayer de les aider à s'auto-organiser. Et il a poussé le concept de community organizing, c'était vraiment ça. Donc on retrouve cette idée de communauté qui reviendra dans le monde du web, pour les aider à s'organiser, à prendre en main leur destin, et à essayer de sortir de la pauvreté. Et puis ce concept-là, il va naître aussi du côté du monde numérique. Il faut remonter pour ça dans la fin des années 70, années 80. On va avoir une espèce de rencontre improbable qui va se passer entre, d'un côté, des mouvements contre-culturels qui viennent de ce qu'on appelle les mouvements de retour à la terre, les hippies qui partaient revivre dans les campagnes, qui fuyaient la ville, qui fuyaient le monde de la grande entreprise. Et ces mouvements-là vont rencontrer les mondes de la technologie et de la recherche, très curieusement, parce qu'un certain nombre de figures, dont la plus connue est Stewart Brand, va opérer cette rencontre, va leur permettre de se rencontrer. Ensuite, il y en aura d'autres. Il y aura des gens comme Howard Rheingold, aussi le fondateur de Wired, Kevin Kelly, etc. Et cette rencontre va donner quoi ? Elle va donner l'idée qu'on va pouvoir se transformer soi-même et se transformer collectivement grâce aux outils. Alors ces outils, ça va être le LSD, ça va être le dôme géodésique, ou ça va être le PC, puis Internet, puis les premières communautés virtuelles, BBS, etc. Donc, et c'est dans cette mouvance-là qu'est née cette notion d'empowerment, au sens de je me redonne du pouvoir sur ma vie et je me donne les moyens de me transformer et de transformer la société en même temps. D'accord. Voilà pour les racines. D'accord. Donc aujourd'hui, pour finir, la définition d'empowerment, elle a tendance à se diluer. On a tendance à employer la notion, notamment en France, plutôt comme idée de participation. Quand je dis diluer, c'est qu'on risque de l'affaiblir aussi. Parce que passer dans empowerment, il y a l'idée de pouvoir, je gagne du pouvoir. Dans la participation, on gagne en autonomie, on est partie prenante, mais on ne gagne pas forcément du pouvoir. On pourra en discuter.
D'accord. Et donc Benoît, pour rebondir sur ce que vient de dire Valérie, au prisme des médias informatisés, du coup, aujourd'hui, comment s'envisage l'empowerment ?
Pour rebondir justement sur l'histoire que dressait Valérie de la notion même d'empowerment, je la poursuivrai un petit peu, mais sur une de ces avatars qui est les plus connus ces dernières années, qui est Barack Obama. Pourquoi ? Parce que Barack Obama lui-même a été un community organizer. Il a été formé lui aussi à l'école de Saul Alinsky, et il a même attiré dans la campagne un de ses disciples qui est Marshall Gantz, et qui a été vraiment un des théoriciens de la campagne d'Obama. Alors qu'est-ce qu'elle avait, cette campagne d'Obama, de si proche de l'empowerment ? Ben, tout simplement...
C'est la campagne de cette année ou
d'il y a... De 2008.
D'accord.
La campagne de 2008, qui a probablement été en fait le moment, un des moments les plus importants où on a vu quel phénomène s'exprimait, mais tout simplement le fait que Barack Obama a réussi à faire une campagne En organisant, on pense, entre 1 à 2 millions de volontaires qui sont venus spontanément dans la campagne et qui, d'une certaine manière, si on doit le schématiser, sont devenus, avec des moyens qu'on leur a donnés, on retrouve cette notion de moyens, de pouvoir, de capacité qu'on donne à des gens pour pouvoir organiser leur propre campagne. En gros, vous avez eu des centaines de milliers de personnes qui ont constitué des petites équipes et qui sont allées avec des outils et aussi avec des indicateurs, c'est-à-dire qu'au-dessus d'eux, ils étaient relativement contrôlés, mais quand même avec certains moyens d'autogestion. Et c'est ça qui a fait qu'on a eu à peu près 70 à 90 millions de portes qui ont été frappées par ces petites équipes. Donc ce qu'il y a de très fort dans la campagne de Barack Obama en 2008, c'est que c'est une campagne d'empowerment qui, en gros, arrive à mobiliser des centaines de milliers de personnes grâce à des moyens Internet. Alors, c'est pour le donner, peut-être dans un des cas qui a été les plus emblématiques, l'empowerment en politique, c'est un Barack Obama qui n'est pas un membre de l'establishment lorsqu'il commence à penser à sa candidature en 2004, personne n'en avait jamais entendu en parler avant 2004, et qui va réussir à faire une campagne qui va très largement reposer sur des volontaires et sur des tout petits dons. On est vraiment dans une révolution de l'empowerment dans le champ de la campagne. Maintenant, si on regarde un tout petit peu, et c'est ça moi que je trouvais extrêmement intéressant dans l'empowerment, c'est qu'en réalité, le patient qui va demain consulter chez son médecin et qui va tout d'un coup lui demander davantage d'explications parce qu'il a lu sur les forums de Doctissimo des informations concernant une maladie qui est peut-être celle qu'on lui diagnostique. Donc le fait que tout d'un coup un médecin ait face à lui quelqu'un qui ait plus de répondants, on est dans l'empowerment, mais là, dans le champ de la médecine. Le jour où un élève interpelle son professeur parce qu'il a vu dans Wikipédia qu'il y avait éventuellement un fait ou une date qui n'était pas celle que lui avait donnée son professeur, on est dans un phénomène d'empowerment, etc., etc. C'est ce qui est intéressant, c'est le côté, évidemment, ça n'a pas de limites dans les secteurs que ça touche.
Donc justement, la mouvance aujourd'hui du crowdfunding, pour vous, c'est clairement un empowerment, par exemple, économique.
Absolument, dans la levée de fonds et sur des petits dons, c'est exactement ça.
Très bien.
Et si je peux rebondir là-dessus, je pense qu'il faut faire quand même attention, parce que dans l'exemple que tu citais tout à l'heure à propos de la campagne Obama, finalement, on a l'impression que c'est Obama qui a été empowered plus que les citoyens. Et surtout, on a vu la difficulté qu'il a eu à convertir l'essai. C'est-à-dire que la mobilisation pendant la campagne s'est faite très bien. Quand il s'agit de faire de la politique autrement, le processus s'est arrêté là. Tout ça pour dire quoi ? En ce moment, on est en train de convoquer ce terme d'empowerment dans toutes les figures de la vie de l'individu. On parlait de la santé, on parlait de l'apprenant dans son rapport à l'enseignant, on peut parler du consommateur empowered, dont on entend beaucoup parler en ce moment autour de la consommation collaborative. On peut parler du travailleur, de la personne au travail qui aujourd'hui a plus de moyens d'être un travailleur autonome, qui s'affranchit de l'entreprise, etc. On peut parler du créateur, l'individu grâce au numérique est plus innovant, plus créatif, etc. Bref, donc on a une espèce de convocation permanente de l'empowerment dans toutes les postures de vie d'un individu. Et moi, je me méfie de cette espèce de surcharge cognitive. On veut trop charger la barque de l'empowerment. Et je pense qu'il faut prendre le temps au cas par cas de voir ce que ça produit vraiment dans les différents espaces et dans les différents temps de vie.
Je suis d'accord, cela dit, pour moi, c'est très différent, par exemple. Souvent, on mélange les concepts de celui de participation. Pour moi, l'empowerment, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais disons que la participation est vraiment le maillon le plus faible, ou en tout cas le plus petit dénominateur commun. Participer, c'est bien, mais on est au degré zéro de l'empowerment d'une certaine manière. Et donc moi, je suis assez d'accord avec Teddy Valérie. Je le convoque parce que je pense qu'il faut mesurer qu'il y a une révolution dans la révolution numérique. Et que cette révolution, moi, je pense que c'est la révolution de l'empowerment. C'est-à-dire de donner, encore une fois, des capacités, des moyens. Ça veut dire aussi, il y a une notion de motrice dans le mot empowerment qu'on n'a pas en français non plus. C'est-à-dire, c'est aussi amorcer. C'est pas simplement donner les moyens, c'est aussi inciter à amorcer. Et à mon avis, ce qu'il faut retenir, c'est que cette vague, je penche tous les secteurs. En revanche, là où je rejoins complètement Valérie, c'est qu'il ne faut pas réduire n'importe quelle forme de 2.0 de participation à de l'empowerment. C'est beaucoup plus vaste que ça.
Justement, je vais rebondir sur ce que vous dites. Et par exemple, pour vous, vraiment, l'Internet permet aux gens de s'empower, comme vous disiez tout à l'heure. Mais vous ne pensez pas quand même qu'il y a nécessité quand même d'avoir un certain capital social, d'avoir un certain réseau, etc., qui soit déjà constitué, déjà en dehors de l'Internet, pour pouvoir ensuite créer du mouvement autour de soi sur le web et finalement entrer dans un processus d'empowerment. Ça me paraît comme ça. Et je ne pense pas du coup que tout le monde puisse finalement se dire « Allez, là, je vais lancer un mouvement sur l'Internet. »
Si je peux réagir sur ce point, en fait, je pense que là, il faut effectivement revenir à l'esprit de départ de l'empowerment, qui était un esprit de communauté. Ce qu'on observe aujourd'hui dans les différents processus qui sont censés augmenter les capacités de l'individu, dans certains cas, en fait, il va être seul dans ce travail. Et dans d'autres cas, il va être en communauté, en collectif. Dans le premier cas, je pense que c'est très compliqué et qu'on risque, comme vous le soulignez, d'augmenter les écarts en fonction du capital cognitif, relationnel, culturel, etc. de la personne. Quand on est en collectif, à ce moment-là, on peut créer une dynamique et changer véritablement le rapport de force. J'illustre mon propos. Par exemple, le consommateur empowered, s'il y a tout un mouvement en ce moment que je trouve très intéressant et que j'appuie, qui s'appelle le mouvement du VRM, du Vendor Relationship Management, qui dit l'individu doit reprendre le contrôle sur ses données. Il doit arrêter de se les faire plus ou moins s'en faire dépouiller par les acteurs du web. Et il doit pouvoir décider de qui va utiliser ces données, à quel moment, pour faire quoi et pour lui proposer quel service. Bon, le principe est superbe. Il y a un talon d'Achille dans ce raisonnement, c'est que du coup, c'est l'individu tout seul qui va se retrouver face aux entreprises, au monde de la consommation, et qui va devoir faire ses arbitrages. Et là, j'y vois une difficulté, parce qu'on lui demande d'avoir effectivement tout cet outillage intellectuel pour faire des micro-arbitrages permanents sur ce qu'il va faire de sa vie de consommateur. À côté de ça, on a des espaces où on peut se constituer en collectif, et je pense que c'est l'union des deux qui va faire la véritable force transformatrice. Quand on voit des mouvements de consommateurs, par exemple ce qui s'est passé, les révoltes d'utilisateurs Facebook à certains moments quand les conditions générales d'usage ont été transformées de façon excessive, ou encore plus récemment sur un service très atypique qui est celui du couchsurfing, là aussi il y a eu un changement de conditions générales d'usage. Là, on voit la force du collectif. Et donc, il ne faut pas lâcher l'un pour l'autre.
Je pense que c'est d'autant plus juste que si on revient au père fondateur, Saul Alinsky, quand il organise ses luttes, il montre bien, quand il les théorise dans ses bouquins, que ces luttes, en fait, elles sont autant des moyens d'acquérir concrètement du pouvoir que de conscientiser les gens dans cette lutte. Et donc, je pense que les deux vont de pair et qu'effectivement, ce n'est pas des individus atomisés et éclatés qui pourront jamais probablement en profiter. Il peut y avoir des exceptions, mais c'est certainement pas ça le mouvement le plus fort, je suis d'accord.
D'accord. J'aimerais qu'on poursuive sur l'idée, finalement, c'est l'idée d'empowerment sur les médias informatisés, sur Internet. Est-ce que ça ne sert pas quelqu'un ou quelque chose, finalement, de parler d'empowerment? Est-ce que ça ne sert pas, justement, à valoriser l'idée d'un web participatif, l'idée d'un web démocratique, où chacun puisse s'exprimer? Est-ce qu'il n'y a pas un groupe d'acteurs, finalement, qui serait favorisé par ce genre de discours? C'est de Valérie plutôt.
Est-ce qu'il y a une main invisible qui manipule l'empowerment? C'est ça la question. Je crois que c'est un peu plus complexe que ça. En fait, il faut comprendre que une partie des racines intellectuelles, pas celles qu'on a mentionnées jusqu'ici, mais plutôt celles qui viennent, comme je citais tout à l'heure, des mouvements contre-culturels, etc., puisent aussi à une culture libertarienne. Là, je vous renvoie aux écrits de Fred Turner, qui vient de faire paraître en France la traduction de son livre « Aux sources de l'utopie numérique », où on voit bien le poids de cette pensée libertarienne qui s'est installée dans le monde du numérique et qu'on retrouve aujourd'hui chez certaines grandes figures du web. Je pense au discours de Tim O'Reilly, par exemple, qui montre, il a écrit notamment un pamphlet qui s'appelle Governing as a Platform, si je me souviens bien, où il montre comment le monde de l'entreprise, le monde du web doit être et peut être la source d'inspiration pour transformer la politique. Et ça, c'est vraiment cet héritage des années 70-80, etc. Dans cette idéologie libertarienne, n'oublions pas qu'il y a une dimension, c'est qu'elle se construit contre l'État et contre la puissance publique. Et ça, je pense qu'on a besoin, nous, de prendre, je dirais, le meilleur de la culture de l'empowerment telle qu'elle est sortie de ces milieux-là, mais aussi de la réconcilier avec une vision qui laisse sa place à l'intervention de la puissance publique. Je pense qu'on a besoin, pour que tout ça fasse vraiment moteur de transformation, de jouer en permanence entre l'individu dans sa communauté auto-organisée qui prend en main effectivement sa vie et qui essaye de la transformer, et l'intervention à un moment ou à un autre de la puissance publique qui va venir appuyer, consolider, catalyser ces processus ascendants organisés par des communautés. Alors, je peux donner des exemples après si
c'est utile. Madame, vous voulez réagir dessus?
Non, elle a tout dit.
Elle a tout dit. Et justement, là, c'est plus une question, je vais demander un peu votre avis pour l'avenir, en fait. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un renforcement de ce processus d'empowerment ou au contraire, plutôt un affaiblissement de celui-ci vis-à-vis de...
Modulo toutes les réserves qu'il faut mettre sur le terme lui-même, qui d'abord n'est pas très bien compris. En français, en plus, il est très vague. En anglais, il est polysémique. Et en plus, c'est un concept assez nouveau quand même, surtout pour des Européens et a fortiori dans le champ numérique. Donc, je pense qu'il faut faire un peu attention. Cela dit, quand on aura stabilisé le concept, qu'on aura un peu plus analysé, si on regarde un peu le phénomène qu'on a un peu décrit là dans ces quelques minutes, très honnêtement, je pense qu'on est au tout début de cette révolution de l'empowerment qui, outillée par le digital, est en train, secteur par secteur, de s'y instiller. Donc je ne vois pas très bien ce qui pourrait l'arrêter. En revanche, il va y avoir des effets négatifs de ça, on a essayé d'en parler un petit peu tout à l'heure, et le besoin de le penser, comme souvent d'ailleurs dans la révolution numérique, on a besoin de la penser pour essayer un temps soit peu de la comprendre et de la maîtriser.
Je pense aussi que la manière dont le web de demain va se construire va être déterminante pour cette question du futur de l'empowerment. Ce qui a fait la formidable richesse du web qu'on connaît aujourd'hui dans ses différentes évolutions, notamment du web dit 2.0 ou web participatif, c'est que c'était un web ouvert dans lequel il y avait une possibilité d'utiliser des externalités positives générées par d'autres acteurs. Et c'est toutes les API, les mash-up, etc. On a vu comment l'innovation a nourri l'innovation parce qu'on avait à la base une infrastructure qui est l'Internet, qui est une infrastructure pensée comme un bien commun. Si on reste sur cette lancée-là, et notamment dans la manière dont on pense aujourd'hui ce qui est censé être la nouvelle énergie de l'économie numérique qui est la donnée autour d'un autre mythe qui est le big data, si on reste sur cette philosophie-là, effectivement, je pense qu'il y aura de l'espace encore et beaucoup d'espace pour du gain en capacité de la part des individus. Par contre, on voit aussi des forces à l'œuvre dans l'évolution d'Internet et du web qui essayent de refermer, de reverticaliser le web avec des logiques de monétisation à court terme, de perte de ces fécondations croisées. Et si le web allait dans ce sens-là, à ce moment-là, je serais un tout petit peu moins optimiste.
D'accord. Donc ça dépendra de l'avenir juridique et commercial, finalement.
Politique. Politique. C'est une question éminemment politique et qui, évidemment, s'imbrique dans la technique.
Très bien. Merci à vous deux.
Merci.
Merci.
Donc je tiens aussi à remercier l'équipe audiovisuelle du CELSA qui a bien voulu venir nous aider pour le tournage de cette émission. Et puis merci aussi bien sûr à vous, tous les internautes qui nous suivez. N'hésitez pas à réagir sur cette vidéo en répondant via les commentaires qui sont en bas de cette vidéo, mais aussi via le hashtag SMCTalks. Nous serons là pour vous répondre. Donc rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission et d'ici là, portez-vous.